pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Un site d'escorte pour hommes. Il y a la possibilité de poster des vidéos en ligne de ses exploits, de ce genre de choses. Chose que je ne fais pas. Moi, je suis beaucoup plus sur des rencontres. Donc, par exemple, mon annonce, donc Tom Escort, c'est mon pseudo. Tarif à l'heure, 200 euros. Tarif pour la nuit, 600. Et pour les 24 heures, 1000 euros. L'apparence, comme sur les sites de rencontres classiques, hein, le corps, groupe ethnique, le poids, la taille, les cheveux, les yeux, la pilosité et la taille du sexe. Ensuite, les préférences niveau sexuel, donc la baise, la fellation, donc le rôle qu'on a, actif ou passif, les différentes pratiques, bouche dorée, fist, SM, bondage, crad. Embrasser, c'est quelque chose d'important, parce qu'embrasser, c'est aussi une petite connotation. Là, j'ai mis oui, parce qu'encore une fois, je pars du principe que si je rencontre la personne, c'est que j'en ai envie et que ça ne poserait pas de problème de l'embrasser.
Je pense que c'est quelque chose de très présent déjà chez les homos, hein, la prostitution depuis des décennies, Hein. Quand t'es jeune, que t'es mignon, donc que t'es homo, bah c'est quelque chose de très très courant de le faire. La plupart de mes amis gays autour de moi, même quarantenaires, même cinquantenaires, etc., ils l'ont fait. Les propositions, elles viennent super rapidement, super facilement. Donc t'es un peu mignon, ça arrive, quoi.
On pourra, en écoutant aujourd'hui les histoires de Kevin, Julien, Victor, Nathan et Marc, étudiants et escort boy, avoir en tête les histoires de Lola, Kelly et Amandine, étudiantes et escort girl, que nous avions diffusées le 20 juin dernier dans Les Pieds sur Terre. On aura du mal, même si on ne se souvient pas très bien de ces histoires-là, à ne pas se demander pourquoi la vente des services sexuels semblait un problème pour les jeunes filles elles-mêmes, pour la loi apparemment, ou pour certaines féministes dans le deuxième cas. Et pourquoi, au contraire, le fait que les garçons, aujourd'hui, fassent commerce de leur corps ne semble pas susciter les mêmes réactions de réprobation, de pitié, de dégoût de la part d'eux-mêmes, de la société ou de leur entourage. Il se peut donc que ces histoires de garçons aujourd'hui qui vendent leurs services sexuels livrent paradoxalement une réflexion sur le corps de la femme, sur le sacré dont il resterait investi, sur la vie dont il serait encore pour beaucoup le dépositaire, sur tous ces mystères qui feraient des femmes des êtres si radicalement différents, du moins dans ce que révèlent les difficultés à accepter la prostitution féminine. On gardera aussi à l'esprit les termes de la loi adoptée en première lecture en décembre 2013, renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. On imaginera que si cette loi est finalement ratifiée par les deux chambres, Kevin, Julien, Victor, Nathan et Marc bénéficieront d'un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel. Leurs clients, par contre, seront considérés comme des délinquants et ils devront payer des amendes allant jusqu'à 3 750 euros et suivre aussi des stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels. Aujourd'hui donc, commerce du sexe, commerce du corps avec 5 garçons. Jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage d'Olivier Minot réalisé par Delphine Lemaire.
Je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans, je suis salarié en CDI et je suis un cursus d'études supérieures, pas correspondance, donc en licence 3 d'art plastique. Je viens de province, famille plutôt modeste, donc on n'avait pas les moyens de payer un logement sur Paris. Donc je n'ai pas suivi mes études directement après le bac et j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. J'étais donc en Picardie, taux de chômage super élevé, j'ai un look qui dérange dans certains milieux professionnels. Je suis hyper tatoué, je suis percé, j'ai les cheveux colorés. Et donc peu de travail de toute façon quoi qu'il arrivait, pas de diplôme vu que j'ai arrêté les études en suivant. Donc c'est un escort qui faisait l'escorting sur internet, qui m'avait donné un petit peu les sites pour faire. Et donc ça me semblait une chose qui me semblait possible de faire, parce que j'ai un très bon rapport avec ma sexualité, avec mon corps, que ça me semblait pas spécialement risqué pour ma santé mentale, ni pour ma santé physique. Et puis voilà, première passe c'est fait, ça s'est très très bien passé, c'était comme un plan cul, à la fin t'as 100 balles, donc c'était un peu argent facile, et donc j'ai continué là-dedans, parce que c'était une source de revenus qui n'a jamais été ma source de revenus principale, mais c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir déménager sur Paris, de pouvoir vivre sur Paris, de pouvoir stabiliser ma vie. accéder à un emploi que j'ai actuellement et qui, une fois la situation stable eue, j'ai pu reprendre des études.
Je m'appelle Julien, j'ai 25 ans, je suis étudiant en com et je vis à Lille depuis 4 ans. J'ai mon bac en 2007, donc ça fait déjà un bout de temps que je suis en études. Mes parents ne peuvent pas non plus me financer pendant tout ce temps-là. Je suis issu d'une grande fratrie. Je dois les financer par moi-même. Et avec mon copain, on avait quelques amis homosexuels qui s'étaient déjà prostitués. C'était plus de l'ordre du fantasme, en fait. On s'est dit que, comme les quelques amis qu'on avait, qui avaient déjà tenté l'expérience, n'avaient pas l'air traumatisés, alors pourquoi pas nous ? La prostitution, c'est quelque chose, il y a encore 2 ou 3 ans, jamais j'aurais pu l'envisager. Ça me paraissait vraiment quelque chose de très abstrait. En fait, le déclic, il est venu dans notre couple. On a eu une séparation, j'ai appris justement que mon copain avait essayé de se prostituer. Et donc, on s'est remis ensemble avec mon copain, et je me suis dit, bon bah, si lui l'a réussi, pourquoi pas moi, finalement. Et comme les choses sont extrêmement simples, il suffit de se créer un profil sur un site de rencontre, ça prend quoi ? Ça prend un quart d'heure, même pas ? C'est vraiment très simple et ça demande aucun investissement. C'est pas de l'escorte classique, c'est plus une sorte de plan exhibitionniste, c'est-à-dire que je fais l'amour avec mon copain devant un client qui va lui nous regarder, éventuellement se toucher, voilà. Donc un plan voyeur. Donc on a fait une première rencontre et ça s'est bien passé. Bon, malgré le fait qu'on soit dans un hôtel Formule 1, que les lumières crues, les néons, c'était pas très très sensuel quoi. Et on a vu tout de suite, au bout d'une heure, que moi et mon copain, on avait déjà 150 euros dans la poche, quoi. Donc si effectivement on pouvait joindre l'utile à l'agréable, coucher ensemble devant quelqu'un et en plus se faire payer pour ça, c'était le jackpot.
Je m'appelle Victor, j'ai 30 ans et j'habite à Toulouse. J'ai des études de droit pour devenir avocat. Je touche en partie les minimums sociaux, le RSA, et aussi je fais du travail du sexe, je suis pute. J'ai commencé il y a plus de 10 ans. Déjà, j'avais une activité sexuelle assez développée. Et puis, en fait, ça me rendait assez curieux de voir si je pouvais justement vendre mon corps. Du coup, je l'ai fait une fois ou deux. Puis, à un moment, j'ai pas pu me battre. J'ai vraiment eu envie. J'avais un rêve, c'était d'être pute à New York, en fait. Du coup, j'ai tout lâché. Ce que je faisais à Paris, d'ailleurs, je me disais à s'occuper. Et je suis allé m'installer à New York et j'ai fait la pute là-bas. Ma motivation principale, ça reste la thune. Et puis j'aime beaucoup Jean Genet, qui notamment dans un de ses bouquins, Le journal du voleur, il raconte sa vie de pute mec, notamment à Barcelone et à Paris. Il y a aussi un truc un peu romanesque, tu vas te retrouver aller au Plaza Athénée, parce que t'es un jeune russe, sans doute fils d'apparatchik chelou, qui t'invite dans sa suite à 5000 euros, boire d'un grand vin et faire du sexe sur le canapé, c'est juste drôle aussi, tu vois. Après, si j'étais riche, je pense que je le ferais pas. Mais peut-être que je paierais des mecs, par contre, tu vois.
Moi, c'est Nathan, j'ai 25 ans. Mon père est coiffeur, ma mère employée d'assurance, donc c'est plutôt classe moyenne inférieure, si on peut dire. J'ai fait des études de sociaux, Sciences Po, donc à la fac. Donc je fais du travail du sexe. C'était un fantasme depuis que j'étais ado. À Tours, il y a pas mal de filles qui travaillent dans la rue, autour de la cathédrale, autour d'un boulevard. Puis c'est ça, un jour, bon, je suis allé les voir, j'ai dit, bah ouais, comment ça marche et tout. Les meufs super sympas, c'était plutôt des vieilles. Ils m'ont dit, bah mets-toi là, et puis tu vois. Ils m'ont donné des petits conseils, ça a duré quelques mois. Puis c'est vrai que ça m'arrivait de soir comme ça, sans voir personne, ouais, des voitures s'arrêter, des gens curieux. Puis je pense, ouais, peut-être que c'est des personnes qui m'ont vu, qui se sont dit, ah bah tiens, pourquoi pas un mec. Puis voilà. À l'époque, j'étais déjà étudiant, en fait, c'est ma première année. Ouais, j'avais des sous, hein, la pension alimentaire de ma mère, de mon père et tout. Mais ouais, c'était peut-être pour un peu plus de confort. À l'époque, je faisais plutôt des couples, donc des couples hétéros. Et puis au fur et à mesure, je faisais de plus en plus des mecs, jusqu'à que je déménage sur Paris, où je me suis mis sur Internet, en fait, tout de suite. Ben, maintenant, ça fait quelques années. Hein. Pour moi, c'était une manière d'assumer un peu plus facilement son homosexualité. Ce que tu projettes, c'est avant tout d'être pute, et du coup, après, être homo, en fait, c'est quasiment normal.
Je m'appelle Marc, j'ai 23 ans, et je suis étudiant en école de gestion, sur Bordeaux, donc. Je suis un milieu aisé, privilégié. C'est-à-dire que mes parents peuvent me payer mes études, mon appartement, de l'argent de poche. J'ai passé mon bac donc en 2008, j'ai commencé mes études à Lille, c'est là que j'ai commencé l'activité d'escorte. C'est par un ami qui me trouvait super beau et qui était déjà dans une agence en ligne. Et lui, c'était vraiment pour se faire de l'argent. Il m'en a parlé et puis j'ai fait un tour dessus. Et j'ai trouvé ça drôle de voir des gens qui s'intéressaient à moi et pouvoir me faire de l'argent de temps en temps. Je fais un très gros tri en fait sur les personnes qui me contactent. Et c'est vraiment si la personne m'intéresse, m'attire, ce qu'elle propose. Donc c'est-à-dire que c'est pas du sexe forcément, c'est souvent se faire des restaurants ou des opéras ou partir en vacances. Et donc voilà, ça me permet de voir d'autres choses, des choses que je ferais pas forcément par moi-même tout seul. Et puis voilà, toujours avoir un petit peu d'argent de temps en temps pour des petits extras. Bonjour, vous cherchez un jeune homme de compagnie discret et raffiné pour passer des moments en société ou intime, raffiné, animé et toujours de qualité. Bien élevé, cultivé, je suis étudiant et parcours le monde depuis ma plus tendre enfance. Que vous vouliez de la compagnie pour sortir, passer des bons moments, être massé ou autre, je serais ravi de mettre mon expérience à votre service. Pour des moments chauds sans retenue comme pour des instants plus sensuels, n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations ou que ce soit d'autres. Salut, je suis Pascal, homme de 38 ans. Je serai à Lyon du 6 au 10 février. J'aimerais tellement passer une nuit avec toi en respectant ta réponse. Salutations, Pascal.
Qu'est-ce qui va t'accrocher sur une réponse? Tu vas répondre positivement assez rapidement.
L'orthographe, je vais regarder. Pour moi, c'est un signe primordial d'éducation et de sérieux. Et puis la teneur du mail, c'est-à-dire que si je veux recevoir un message, j'ai envie de te baiser, t'es trop beau ou ce genre de choses... Ça va pas me faire tilter. Et ensuite, je demande des photos. Et c'est souvent des échanges de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ensuite, je décide si je les rencontre ou pas.
Donc moi, j'étais plus parti pour « Salut, on baisse, tu payes, au revoir ». Et force est de constater que non, c'était pas... On ne venait pas que pour la prestation sexuelle. Il y avait tout le périsexe qui était important aussi pour les clients. Moi, le truc récurrent que j'avais, donc, c'était vraiment les mecs mariés, donc c'est un peu confident sur l'oreiller, sur la femme, comment ça se passe, ou sur les enfants hypothétiques.
Le client type qu'on a pu avoir, c'est un homme qui a dépassé la trentaine, un homme qui n'assume pas son homosexualité ou sa bisexualité, et le fait, pour lui, de recevoir deux hommes qui vont coucher ensemble devant lui, quelque part, ça lui permet aussi de ne pas se considérer comme homosexuel, de juste de voir comme un film porno en direct, en fait. Et je pense que pour des hommes mariés, homo-refoulés ou bi, c'est beaucoup plus simple pour eux de se payer deux escortes plutôt que d'aller draguer sur des sites, d'avoir peut-être le risque que la personne s'attache, le risque de tomber sur une personne qui va les harceler. Au moins, avec nous, le client sait très bien qu'il n'y aura pas plus loin, quoi.
Transculture, les pieds sur terre.
J'aime bien me dire que je les aide, que je leur rends service. D'un côté physique, déjà purement sexuel, ça relâche la pression, si je peux dire comme ça. Et d'en parler, quoi. C'est des personnes qui sont très malheureuses parce qu'elles vivent une double vie et je trouve ça vraiment triste. Alors, personnellement, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui l'ont très bien accepté. J'ai jamais eu à me cacher. Donc je me dis, pour ces gens qui n'ont pas eu cette chance là et qui là sont enferrés dans une vie qui n'est pas la leur, qui est dans le mensonge, si je peux leur permettre pendant une nuit ou une soirée de s'exprimer librement, d'être vraiment eux-mêmes, moi ça m'apporte beaucoup aussi.
C'est là qu'on voit aussi toujours la place de l'homophobie, hein, dans tout ce qui est prostitution. La plupart de nos clients, c'est des gars qu'on voit en journée ou en after work pendant les pauses déjeuner, parce que voilà, au fur et à mesure que les gays s'acceptent, on en a de plus en plus aussi des vieux gays plus assumés, voilà.
La plupart des clients, ils ont plus de 50 ans. En général, ils sont plus trop dans les normes de beauté, parce que en fait, quand t'es vieux et pédé, y a plus trop de personnes qui veulent coucher avec toi. Les mecs avec qui je couche, je pense qu'ils ont eu une activité sexuelle sans doute satisfaisante à un moment, mais vu comme la société est fabriquée, ben y a un moment, ils ont plus droit, plus personne ne veut d'eux. J'ai plusieurs clients en fait qui ont autant envie que je fasse semblant d'être leur petit copain que de faire du sexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension affective en fait qui est assez importante. Parce que moi j'embrasse, enfin il y a des mecs qui t'embrassent, pas moi j'embrasse, et qui, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas embrassé, ou me le disaient qu'ils n'avaient pas embrassé depuis des années, quoi. C'est-à-dire que Et là, c'est vrai que tu te rends compte, en fait, l'espèce de manque affectif super important que ces personnes peuvent vivre, quoi. Et du coup, t'es aussi un peu là pour ça.
Et misère affective, souvent, ça rime aussi avec misère sociale. Une fois, on est arrivé chez une personne qui vivait dans une saleté. Les draps puaient, les murs étaient crades, la vaisselle s'empilait, enfin, les toilettes, la salle de bain étaient dans un état, mais lamentable. Il est hors de question que je me roule dans les draps comme ça. Alors, c'est pas pour faire la princesse, mais c'est que nous, on offre une prestation qui est honnête, qui est clean, et le client doit en retour aussi bien présenter.
En fait, les moments où ça a pu mal se passer, c'est plus quand j'ai genre aucun désir. C'est-à-dire qu'en fait, la personne me dégoûte, et c'est réel, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'essaye de faire, c'est... J'imagine une situation, tu vois. J'imagine que je suis pendant la guerre, et c'est un résistant... Qui vient de passer la ligne nazie et qui a vraiment besoin d'être réconforté, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment envie de le faire, quoi.
J'exclus tout ce qui est vraiment trop repoussant pour moi, pour les autres. Donc, même si c'est pas l'attrait, c'est pas le grand amour, c'est neutre. Donc, il n'y a pas de dégoût à rencontrer la personne. Il n'y a jamais eu de difficulté à faire une passe. Toujours du relationnel, très bonne entente. Comme j'ai fait de la vente avec les clients, bah voilà, tu t'entends bien quand même.
Je me souviens juste de ce petit homme rond, la cinquantaine, qui avait vraiment un gros grain de beauté près du nez. Et là, je me suis dit, ah, je vais devoir faire du sexe avec lui, ce qui était hyper curieux, parce que j'avais vraiment effectivement aucun désir pour lui.
Ouais, c'est vrai que des fois, les clients, ils sont pas super beaux. Des fois, c'est juste des beaux gosses, t'es là, mais pourquoi tu me payes? Mais non, bah, t'arrives toujours à le faire. Enfin, je pense pas que ce travail soit fait pour tout le monde, parce que ça... un rapport à son corps, à sa sexualité qui est particulier, oui, qui demande de s'exciter, tu vois, plutôt facilement, même si il y a peu de raisons. Mais moi, j'ai toujours trouvé quelque chose chez mes clients qui faisait que ça marchait, si tu veux.
Moi, depuis un moment là, maintenant, je me fais prescrire du Viagra, en fait. C'est une espèce de béquille qui rend plus confortable, en fait, de la performance sexuelle. Parce que parfois, j'ai pris du Viagra, et en fait, je pense que j'en ai pas eu besoin, et du coup, c'était plutôt gênant. Parce que du coup, j'arrêtais pas de bander, en fait. Même une fois que c'était fini, tu vois. Ce qui était d'ailleurs un peu curieux, je pense, pour le client qui avait une gaule inarrêtable. Moi, je suis payé environ 150 euros.
C'est autour de 1000 euros par mois.
La nuit, c'est 600 euros.
Pour une heure de prestation, on touche 200 euros.
Et 24 heures, 1000 euros.
500 euros à peu près par mois.
Voilà, je considère ça vraiment comme de l'argent de poche.
Ce qui double mes revenus, qui sont le RSA, tu vois.
Ce qui fait que mon loyer est payé en 4 ou 5 plans.
Pour une heure, du coup, c'est beaucoup de thunes. Parce qu'en fait, si tu réfléchis, t'es payé au SMIC, c'est plutôt 20 heures de travail qu'il te faut pour en fait, de gagner cet argent.
L'année dernière, j'ai dû gagner... mettons 5000 euros en cash à chaque fois, donc il n'y a pas de trace sur mes comptes en banque, parce que mes parents ont accès à mes comptes en banque.
1000 euros par mois, donc c'est ce que je déclare au fisc. Moi, je me déclare en auto-entrepreneur, hein, donc 24% de taux d'imposition, mais bon. Au moins, je me suis déclaré en consultant en développement personnel, donc c'est un peu un rapport, ils ne vont pas venir vérifier. Et même s'ils viennent vérifier, moi j'ai un peu l'impression que c'est ce que je fais en vrai. Donc...
On a mis au point deux formules. Une à 150 euros où on couche devant la personne ne nous touche pas, il n'y a pas de contact. Et une formule à 200 euros, donc un peu plus cher, où justement la personne peut éventuellement nous toucher, donc ça reste des caresses soft finalement. On a mis au point des barrières fermes. Parce que le risque de faire de l'escorte en couple, c'est aussi de perdre un petit peu son intimité. Donc le fait de mettre des limites, ça nous a permis, donc avec mon copain, de conserver une sexualité à côté, plus sincère, plus entière, et de n'offrir finalement qu'une petite partie de ces pratiques-là avec les clients.
J'ai toujours trouvé que le sexe et l'amour faisaient pas très bon ménage, en fait. Parce qu'en fait, que le sexe et le désir du corps soient l'expression du niveau de sentiment que tu peux avoir envers une personne, j'ai toujours ça problématique, en fait. Du coup, vite, je sépare, en fait, la sexualité, tu peux penser à l'amour, relation amoureuse, que je trouve, du coup, beaucoup plus solide, en fait, que les relations amoureuses qui incluent aussi la sexualité, tu vois.
Mes amoureux, mes amants, mes clients, des fois ça se mélange, des fois non. C'est pas simple d'avoir un copain quand t'es pute. C'est un peu compliqué. Non, bah, j'ai déjà eu... J'avais un copain avec qui j'étais depuis 3-4 ans. C'était une question qui revenait souvent, du coup, sur le devant. Hein, et que... Bah, au final, oui, ça a un peu provoqué notre rupture, mais moi, c'est ma manière de vivre confortablement. Moi, je trouve pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça. J'ai pas l'impression de me dégrader en le faisant. Hein. Donc, moi, j'ai un copain qui me disait ça, tu te dégrades en le faisant et tout. Et c'était ça son problème. Et donc, ouais, non, bah, moi, maintenant, je le dis. Hein. Si ça te dérange, bah, tant pis.
J'aime le sexe et je l'assume pleinement, sans complexe. Je suis ouvert à tout et toujours prêt à découvrir de nouvelles choses dans les limites du raisonnable. J'adore tous les jeux sensuels et sexuels, les contacts virils, l'amour soft à animal. J'aime réaliser les fantasmes de mes partenaires et les voir prendre du plaisir et mon plaisir.
Pour moi, c'est un job, c'est un échange de services. On propose un service très clair, très précis. Il y a presque un cahier des charges, finalement. Et on se fait rémunérer pour ça. Pour moi, c'est vraiment un commerce.
C'est pas le commerce qui me plaît, c'est plus le côté de la valeur, en fait, que quelqu'un est capable de me donner de manière financière. Et en fait, dans cette société, c'est difficile de quantifier les choses autrement que par l'argent. Je considère ça comme un travail, parce qu'en fait, ça répond en fait, à la définition d'une prestation contre salaire, tu vois.
Ah oui, c'est un travail, hein. C'est du temps, c'est un peu... ça prend du temps quand même, il faut discuter avec les gens. Mais oui, parce que le temps passé avec un client, c'est du temps en moins pour moi, hein, donc c'est toujours pareil. Hein. Personne n'a envie de cumuler les contrats, donc là c'est la même chose. Hein. Donc oui. Si on peut éviter, on évite bien sûr. C'est pas une activité qui me déplaît, c'est pas à reculons que j'y vais, quoi. Juste y remettre, quoi.
Des fois j'ai des clients un peu moins cool, puis bah ouais, comme dans tout travail, et moi je pense que c'est important de pouvoir dire que bah, j'ai des journées de merde et tout. Et des fois, j'ai des journées qui sont trop cool, j'ai des clients de merde, des clients trop cool. Du plaisir, j'en ai très souvent, bah oui, ça implique des parties génitales où j'ai du plaisir avec.
Dans un fast-food, par exemple, le boulot me demanderait de me servir de mes mains, de ma tête. Là, le boulot me demande de me servir de mon sexe. Alors effectivement, c'est une partie du corps comme une autre. Je ne sacralise pas mon corps. Effectivement, la prostitution me demande un usage de mon corps... un peu différent que ce que demanderait un autre travail, mais finalement assez équivalent pour moi.
Pour moi, quand on est propriétaire de ses moyens de production, ce qui est le cas, parce que je suis propriétaire de mon corps, enfin voilà, je le vends pas, je l'ai toujours, je sais pas, tu peux constater par toi-même. À ma force de travail, je la vends pas à un patron, donc non, j'ai pas l'impression d'être exploité. J'ai pas l'impression de faire quelque chose de libéral, parce que ben, ça a toujours été comme ça, même avant qu'on soit dans une économie capitaliste, c'était des services qu'on se rendait, même si c'était sur une base de troc ou voilà. Je suis marxiste, hein, enfin, même plus que marxiste, je suis anarchiste. Donc à part l'État, j'ai pas de proxénète, hein, puisque mon argent, du coup, revient à personne d'autre. Et bah, surtout, pour moi, c'est quand même un service que je rends qui fait du bien aux gens.
De mon point de vue, qui peut-être est restreint, j'ai l'image des prostituées hommes ou femmes avec quelqu'un au-dessus d'elles qui leur demande de l'argent en retour. On a toujours cette vision des filles de l'Est très jeunes qui sont amenées en France. On les drogue, on leur prend leurs papiers. Comme j'ai cette vision-là de la prostitution et que moi, c'est pas ce que je fais, j'associe pas à ça parce que c'est vraiment mon libre arbitre et que je le fais par plaisir. C'est surtout ça, c'est la notion de plaisir. Je n'associe pas ça à la prostitution.
Il y a plusieurs types de putes, tu vois, de prostituées, quoi. T'as vraiment celles qui vont être précaires, qui vont travailler dans la rue, qui ont peut-être pas de papier. Plus tu t'éloignes de la rue, en général, plus tu t'augmentes tes tarifs. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai toujours travaillé sur Internet, principalement. Du coup, plus ce truc d'escorte, tu vois. Alors, escorte, c'est un peu un mot qui cache le mot de pute, puisqu'en fait, souvent on dit, ah, mais c'est pour accompagner dans des dîners ou je sais pas quoi, mais en fait, non, c'est toujours pour du sexe.
C'est un truc que j'ai gardé globalement pour moi. Quelques amis le savent. Ils m'ont dit, oui, t'es beau, tu peux, profites-en, si en plus on est étudiant, tu peux avoir de l'argent à côté. Mais bon, je pense qu'au niveau de ma famille, ça posera des problèmes, ouais. Mes parents savent que je suis homosexuel, ça leur pose aucun problème. Mais voilà, encore une fois, moi j'associe pas ça à de la prostitution, mais d'autres personnes peuvent l'associer. Et je préfère pas prendre le risque que ça se passe comme ça.
Moi j'assume complètement, en fait, c'est la société qui assume pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais au contraire, j'en tire une certaine force, en fait, de pouvoir faire ça, parler de ça. J'adore, en fait, d'ailleurs, en parler de manière extrêmement anodine à des gens que je connais pas, parce qu'à chaque fois, ils sont obligés de réfréner l'espèce de masque d'incompréhension, disons, pour dire un mot doux. Parce qu'en fait, c'est vraiment quand tu dis à des gens des choses qui, normalement, ne peuvent pas être dites, mais que tu les dis sur le ton de la plus grande normalité, ils sont obligés, en fait, de le prendre comme ça. Tu vois, tu les prends de court, du coup, ça... Ah oui, ok, ah, d'accord, tu fais pute. Après, non, auprès de mes parents, je pense qu'ils comprendraient pas. Enfin, je pense que c'est hyper compliqué de se dire « mon fils est pute », alors que finalement, je sais pas, ma mère, tu vois, elle a jamais travaillé. le rôle de femme qu'elle pouvait avoir, il était forcément lié aussi en partie au service sexuel qu'elle pouvait rendre à son mari et contre lequel elle était entretenue.
Du coup, ma mère, je lui ai dit, hein, donc, elle accepte plutôt bien, elle a juste peur pour moi, mais, parce que justement, avec toutes les représentations qu'on a sur le travail du sexe, donc c'est quelque chose de dangereux et tout, voilà. Quand c'est quelque chose qu'on cache, qu'on n'assume pas, ça devient justement une zone de fragilité, de sensibilité. Moi, je suis parti du point de vue, bah oui, ce que je fais, bah, pour moi, c'est tout à fait normal. Si vous avez un problème avec ça, bah, mon mère dépasse et tout.
Si je n'avais pas été dans un état de précarité étudiante, je n'aurais jamais pensé à me prostituer déjà. Même si effectivement au début ça a commencé en se disant que ça pourrait ajouter un petit peu de plaisir, un petit peu de piment, cette seule raison-là était loin d'être suffisante pour justifier en elle-même le fait de devenir escorte. Là je suis en fin d'études, je serai diplômé dans quelques mois, donc je sais que de toute façon j'aurai rapidement des contrats, j'aurai plus besoin d'argent. Ou du moins, plus de cet argent-là.
C'est un boulot qui... c'est comme les sportifs, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'es trop vieux. Du coup, les gens, ils veulent des gens jeunes et beaux, à la peau ferme, la peau douce, tu vois. Et que plus tu vieillis, plus c'est compliqué, en fait. Donc déjà, c'est pas pérenne comme activité. Et puis, c'est juste parce que, en fait, j'ai envie de faire d'autres choses dans la vie, tu vois. Et que je pense que ça participe aussi au fait que j'ai peut-être un rapport détendu avec ça. C'est que je sais que je peux compter sur d'autres types de ressources aussi... pour survivre, en fait.
Je pense que c'est quelque chose que je vais continuer jusqu'à qu'on ne veuille plus de moi. Hein. Voilà. Bon, à part si je fais un mariage de fortune, mais comme on dit, un mari, c'est un client pour la vie. Je pense qu'après 40 ans, ça sera un peu plus compliqué. Oui, c'est quelque chose que je vais continuer à faire assez longtemps. Avec plaisir.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, étudiants et escort boy, une émission diffusée pour la première fois le 7 avril 2014, à la veille de la loi ratifiée depuis visant à lutter contre le système prostitutionnel et pénalisant notamment l'achat de services sexuels. Une émission signée Olivier Minot, réalisée par Delphine Lemaire, avec un coup de main de Philippe Baudouin pour la rediffusion. Merci à Kevin, à Julien, à Victor, à Nathan et à Marc. Sandrine Chaperon, c'est la tâche de production des Pieds sur Terre. Liana Valken, c'est notre stagiaire. Si vous voulez nous faire part de vos commentaires, partager nos émissions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook qui vous attendent avec impatience. His arms all around me and his tongue in my